Dans la vallée du Lot, 92.5.
Voilà, je vous disais à l'instant, c'était un moment de recueillement et de prière avec le Regina Celli. Bienvenue à toutes et à tous. C'est le beau temps qui nous attend, même la chaleur aujourd'hui. Il faut en profiter. Bon appétit si vous êtes à table et puis bien sûr, prudence si vous êtes en voiture. Présence midi, dans quelques instants, on sera avec Benoît Guillard qui nous parlera de circuit court. Et pour ce faire, on ira visiter une ferme pas très loin de Lourdes, dans la vallée de Batsurguère, derrière le Béout. Et puis, on partira à Auch avec notre correspondante Pauline Cazier, une antenne régionale du Centre de prévention de l'épuisement des professionnels de la santé et autres secteurs. C'est un dispositif du CHU de Toulouse qui a ouvert des créneaux de consultation au centre hospitalier d'Auch depuis le 5 février dernier. On écoutera le professeur Fabrice Hérin, qui est le chef de service des pathologies professionnelles et environnementales au Centre universitaire de Toulouse, et le docteur Willy Vaillant, il est hématologue, il est au centre hospitalier d'Auch et il est initiateur de ce projet. On en parlera avec ces deux éminents médecins donc dans quelques instants, grâce à Pauline Cazier. Et puis un jour, un livre, un auteur mettra pour la deuxième émission consécutive à l'honneur un des plus grands, si ce n'est le plus grand auteur, Victor Hugo, grâce à un musée et qui porte son nom, Victor H, à Juillan, une commune entre Tarbes et Lourdes. On ira encore dans les coulisses de ce musée. Voilà pour le sommaire de ce magazine, mais pour l'heure, je vous propose tout simplement de faire un point sur l'actualité. Et on retrouve aujourd'hui Ambre Pagès de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour Ambre.
Sera rendu demain à 11h30 au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, au sergent-chef Florian Montorio, tué dans une attaque au Liban. La désertification médicale frappe l'Ariège et se confirme selon l'étude publiée dans l'Atlas de la démographie médicale par l'Ordre national des médecins fin mars. Une reproduction de la chasse de Nevers de Sainte-Bernadette est exposée à la maison paternelle. La sculpture en bois de Robert Moignard est un hommage à la sainte, dont Anne Leport, sa descendante, est fière. Dans le Lot, les jardins partagés de la Clède, un moteur local qui fête leurs 15 ans. Défaite pour Toulouse, l'équipe de la Ville Rose n'est pas qualifiée pour la finale de la Coupe de France.
Merci beaucoup Ambre Pagès, voilà qu'on retrouvera tout à l'heure pour le journal de la mi-journée aux alentours de 12h30 et puis l'actualité continuera 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. On va parler maintenant de circuit court grâce à Benoît Guillard.
Présence à Souillac 104.8.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons pour cette semaine à nouveau dans le cadre de l'émission La Chronique Verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, et pour un certain nombre de semaines, j'ai fait le choix d'aller à la rencontre d'un certain nombre de témoins autour d'une thématique que j'ai choisie qui s'appelle alimentation, circuit court et circuit de proximité. Et donc j'irai au fur et à mesure des semaines à la rencontre d'un certain nombre de témoins. Et aujourd'hui, je suis donc à Ségus. J'étais venu déjà il y a un an maintenant, pratiquement déjà, rencontrer Aurélien. Et donc, je reviens voir Aurélien, bon, simplement parce que j'ai été interpellé à la fois par sa démarche, par l'esprit, son engagement, projet de vie et son projet de foi aussi. Et puis également parce que je suis très sensible au travers de l'émission que nous avons menée aussi pour présenter le projet de l'Assomption, très sensible au projet qui se développe sur le centre Assomption de Lourdes. Donc je suis à Ségus, petit village, à quelques kilomètres de Lourdes. Et Aurélien donc est un maraîcher, mais il va se présenter un tout petit peu plus juste après. Juste pour introduire cette émission et un petit peu dresser le décor, j'ai envie de vous faire part de quelques réflexions. D'abord, vous dire que chaque crise amène les consommateurs et les agriculteurs vers les circuits courts. On observe que le développement des circuits courts est souvent inversement proportionnel à la présence des coopératives sur nos territoires. Ces formes traditionnelles de circuits courts, que sont les marchés de plein vent et les ventes à la ferme, sont tout de même de plus en plus important aujourd'hui. D'autres formes sont apparues récemment, comme les AMAP, bien sûr, les magasins de producteurs. Et avec le Covid, on a bien vu que les circuits courts ont bénéficié de cette crise. Si les circuits courts ne vont pas remplacer les circuits longs, et ça, certes, c'est un propos que je ne peux que constater, on peut quand même avancer sans idéologie et de façon pragmatique qu'il faudra quand même développer davantage les circuits courts dans le but de rééquilibrer à la fois la production au niveau global, mais aussi et surtout au niveau local, afin de mieux résister et d'avoir une plus grande résilience par rapport aux crises qui s'accumulent à nos portes, qu'elles soient notamment climatiques, économiques, sociales. On est fragile à être trop dépendant des circuits courts, et ces circuits courts, ils sont très peu aidés financièrement. Ils ont peu de moyens, mais ils ont toujours été très inventifs. Alors bonjour Aurélien, peut-être juste quelques mots sur... qui êtes-vous? Un petit mot sur aussi votre projet de vie et projet de l'unité maraîchère que vous menez.
Bonjour Benoît, bienvenue à nouveau au Jardin de l'Aigle-Vive. Alors, moi je suis Aurélien, je suis installé en maraîchage sur Ségus depuis 2021. Donc ça, je finis la cinquième saison. Chaque saison est très différente depuis 5 ans. Je suis installé sur un projet qui s'appelle le Hameau Graines d'Espérance, dont je passe un peu les détails, mais qui est un projet d'accueil à long terme, d'accueil en personnes en situation de fragilité. Et donc mon projet a vocation aussi à être en lien et à avoir des ponts avec ces projets d'accueil. Donc je cultive un peu plus de 5000 m², donc un demi-hectare, en maraîchage qu'on pourrait appeler sur sol vivant, ou que certains pourraient appeler en permaculture. Donc l'idée de ne pas mécaniser le travail, de n'utiliser aucun traitement, ni pesticides, ni herbicides, ni engrais, utilisant des produits de synthèse, et allant même jusqu'à refuser les produits utilisables en agriculture biologique, à partir du moment où ce sont des produits qui tuent ou qui viennent de loin ou qui détruisent une partie de l'environnement pour venir servir notre production locale. Voilà, et donc on essaie d'avancer avec ça, avec une réalité économique quand même, dans l'idée de vivre de notre métier, et c'est là que du coup arrivent les circuits courts.
Alors justement Aurélien, les circuits courts, donc vous êtes partenaire du projet de restauration du Centre Assomption. Peut-être, on avait présenté un petit peu la journée qu'organisait le Centre Assomption là, à cette occasion, peut-être nous dire deux mots sur ce que ça représente pour vous d'abord, ce projet, et en quoi finalement ça répond un petit peu à vos attentes et à vos besoins en tant qu'homme et en tant que maraîcher.
Alors le projet de l'Assomption, qu'est-ce que ça représente pour moi? Vous disiez Benoît que les circuits courts ne remplaceront pas les circuits longs. Moi j'ai cet espoir quand même que si, et je pense que c'est des choix politiques qui peuvent être assez vite posés. On a aujourd'hui tous les chiffres de comment pourraient être redistribués par exemple les subventions ou des systèmes de sécurité sociale alimentaire. Enfin, voilà, aujourd'hui il y a plein de choses qui existent. Et après, il y a aussi des productions qui sont très localisées dans certaines zones du monde et qu'on ne pourra pas tout de suite faire pousser du cacao à Ségus. Donc on aura encore besoin de certains circuits longs, mais s'ils sont vertueux, ils peuvent rester positifs. Et donc dans ce cadre-là, de circuits courts, avec l'Assomption, on a mis en place un projet d'alimenter leur cuisine. La cuisine de ce centre qui produit entre 800 et quasiment 500 repas par jour aujourd'hui en fonction des périodes scolaires ou non et touristiques ou de pèlerinage. Et donc l'idée est à terme d'alimenter cette cuisine en 100% bio et local. Alors attention, bio ça veut pas toujours dire très propre et local, donc faire attention à ces petites choses, mais voilà. Et donc dans ce cadre là moi j'ai consacré 50% de la production des jardins, qui correspondent entre 5 et 7 tonnes de légumes par an, à l'alimentation de cette cuisine. Et donc c'est un projet qu'on démarre depuis le mois d'avril en gros, enfin de toute la saison là. Et voilà, et qu'on mène de front avec le chargé de projet de la mission Assomption, les cuisiniers de la cuisine, les responsables de la maison, et les sœurs, et les gens qui mangent et qui nous font des retours. Voilà.
Et alors justement, puisque là, c'est un projet qui démarre, qui se pose aussi dans le temps et dans la durée, donc j'imagine que ça va impacter votre organisation sur le futur, sans doute vous faire gagner un peu de temps par rapport aux AMAP et par rapport au temps que passe la commercialisation de vos produits. Et puis en même temps, ça vient aussi tout simplement venir alimenter et vous mettre en ligne avec vos aspirations et avec votre foi, tout simplement.
Alors oui, il y a beaucoup de choses là. effectivement, donc il y a le fait d'aller livrer la cuisine avec des cuisiniers qui s'engagent à s'adapter en fait à la semaine ou deux semaines ou trois semaines en avance sur la production en cours et adapter leur menu. Donc ça a un impact effectivement sur le temps de commercialisation. Qui est plutôt positif pour moi. Moi, avant, je commercialisais un petit peu sur les marchés, restaurateurs, à la ferme et sur différents points cagettes en collectif avec d'autres producteurs sur Lourdes, sur Argelès et des épiceries associatives aussi au Pays Toy. Et là, donc, j'ai gardé les ventes à la ferme, qui se passe aussi. T'as parlé du Covid, ce qui est un outil qui a été développé pendant le Covid, et donc j'ai 50% de la vente qui se passe à la ferme, la commercialisation, et le reste donc maintenant qui part sur le centre Assomption. Et donc là, effectivement, il y a un gain de temps et il y a effectivement une modification de planning. Et c'est là qu'il faut rester vigilant parce qu'on pourrait très vite passer à de la production en demi-gros qui intéresse la restauration collective, à savoir de la pomme de terre, du chou, de la courge, du poireau, des carottes et des oignons et des salades, et en rester là et en oublier la biodiversité cultivée et certains légumes de type roquette, choucal, blette, des choses qui vont être assez productives sur notre territoire de montagne et parfois contraignantes pour les cuisiniers ou parfois juste oubliées par les consommateurs aussi ou avec des goûts nouveaux. Et voilà, donc il faut rester vigilant à pas non plus modifier complètement les plannings de culture pour rester sur une agriculture paysanne et sur une agriculture résiliente, parce que quand on cultive 5 légumes, si on a une mauvaise saison sur 3 légumes, eh ben on a perdu 65% du chiffre d'affaires. Quand on est sur 50-55 légumes, ben quand il y a une saison qui se passe mal sur 20 légumes, ben on a encore 70-80% de la production.
Et alors j'ose dire, puisque j'écoute le discours là, ça veut dire aussi que la relation avec le cuisinier, celui qui fait tous les jours les menus et qui cuisine tous les jours les repas, est là du coup très importante, non?
Alors le cuisinier, c'est la clé de voûte du projet, c'est la pierre d'angle, la pierre angulaire. Et donc effectivement, la relation est primordiale avec lui, avec toute l'équipe, avec qui on a des commissions de restauration chaque mois. Et la relation se tisse avec le cuisinier petit à petit, parce que il a beaucoup de boulot en cuisine, j'ai beaucoup de boulot au jardin. Donc on a pour projet de se rencontrer au jardin avec non pas le cuisinier, mais toute son équipe en fait, toutes les personnes qui sont en cuisine. Et qui viennent découvrir aussi cette forme d'agriculture, parce que ils sont un peu les maîtres d'œuvre en cuisine. Mais peut-être que pour eux, maraîchage bio et maraîchage bio paysan de montagne, c'est la même chose, et ça ne l'est pas forcément. Et du coup, de venir comprendre en fait pourquoi tel ou tel légume ne peut pas arriver en cuisine, pourquoi certains oui, quelles sont les contraintes en fait chez nous. Et petit à petit, voilà, de tisser ça, mais ça démarre super bien, et on voit sur les visages et dans ce que dit Kevin et également Aurélien et les autres collègues de cuisine, que en fait ils sont très contents de travailler, enfin de retrouver des produits bruts en cuisine, de retrouver du goût, de retrouver de la couleur et du travail, et pas d'être simplement des réchauffeurs, mais d'être enfin des vrais cuisiniers et de faire le travail pour lequel ils se sont engagés, quoi.
Oui, ils retrouvent le fondement même de leur métier, en fait, hein, tout simplement. Et alors, donc, effectivement, la deuxième partie de ma question, elle était plus en rapport, en fait, avec l'écologie intégrale, Laudato si. Et comment un homme comme toi, qui est à la fois très respectueux de la création, en fait, ce projet répond aussi à tes valeurs et à tes engagements.
Oui, alors là, c'est très personnel, et vu qu'à l'intérieur c'est toujours en questionnement, je crois qu'il faut toujours être en recherche et jamais s'arrêter à ce qu'on croit, même si on a un cadre qui est facilement prédéfini. Donc oui, j'ai envie d'être en lien avec quelque chose qui est plus grand que moi et qui m'attire. Certains parleront de Dieu, de source d'amour. Voilà, donc, et je reconnais cette présence dans tout le vivant autour de moi, et donc dans ma manière de cultiver aussi, et dans la manière dont sont également transformés et mangés mes légumes, quoi. C'est pas uniquement ma manière de travailler, puis ensuite je vends mes légumes à des gens qui en font n'importe quoi. Ça peut arriver. Et donc ce lien-là, donc ce lien au vivant est très fort. Et du coup, ben, dans les vivants, il y a aussi les personnes humaines qui m'entourent. Et donc c'est nourrir ce lien avec ces personnes-là aussi. Il y a la relation avec moi-même, qui est en fait parfois peut-être la plus compliquée, on croirait pas, mais en fait c'est savoir se mettre en relation avec les autres, c'est déjà être capable de ces relations-là. Et donc voilà, donc ça c'est tout un chemin, moi personnellement, dont je vous passerai les détails, mais voilà, on avance avec nos défauts, nos casseroles, notre vécu. Mais c'est un chouette chemin. Et une petite anecdote, là, je parlais tout à l'heure avec une amie qui a un projet pour accompagner les collectifs, les associations en termes de communication et de relations personnelles, justement, mais de manière assez profonde, pas seulement de la CNV et des outils de développement personnel, mais en allant beaucoup plus profondément. Et en fait, quand il y a un conflit, que ce soit en soi ou que ce soit dans la relation à l'autre, en fait, que ce conflit soit toujours une opportunité d'avancer et jamais juste en fait une zone rouge, quoi. Et voilà, donc ça va être pareil dans le travail avec les autres, dans la relation avec plus grand que soi, qui parfois est un peu compliqué. Des fois, ça répond pas trop là-haut, quoi. Enfin, là-haut ou en bas. Enfin, bon, des fois, on se sent un peu seul face à l'absolu, quoi. Voilà.
Merci Aurélien. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le circuit court, en tout cas en t'écoutant et en vous écoutant, c'est plus que l'expression du commerce, en fait. Hein. C'est vraiment d'abord et avant tout du lien social. Dans le contexte, c'est aussi un ancrage très fort, territorial, et c'est surtout pas un repli. Il est clair que, enfin, moi je le partage aussi, hein, je crois qu'on parle de plus en plus de démocratie alimentaire, mais cette démocratie alimentaire, elle passe peut-être avant tout aussi par justement ce regard sur les circuits courts, et puis la volonté d'accompagner ces développements. Et puis en même temps, c'est aussi la reprise en main du système alimentaire, d'une façon beaucoup plus large, par les citoyens. Hein, puisque eux-mêmes ils doivent contribuer à décider les orientations, et c'est là qu'on voit qu'ils ont plein de façons d'agir, par leur façon de consommer, par leur façon de manifester leurs besoins et leurs attentes, par leur façon d'agir eux-mêmes sur leur jardin ou sur les terres agricoles lorsqu'ils sont agriculteurs, et puis aussi en tant que parents. Parce que les enfants, il faut aussi leur apprendre un petit peu tout ça. Il faut leur dire aussi l'importance du local, l'importance du bio, l'importance de la création. Et donc tout ça est un cheminement très important, une expérience très importante. Et effectivement, on continuera ces émissions, hein, sur l'alimentation et les circuits courts. Parce que je crois que c'est important de partager ça avec vous, chers auditeurs, de réfléchir ensemble, hein, c'est un peu l'idée, de réfléchir ensemble sur justement qu'est-ce qui se joue dans tout ça et qu'est-ce que chacun, d'une façon simple, peut faire pour faire avancer. Ces enjeux-là. En tout cas, Aurélien, merci infiniment. Je sais qu'il y a beaucoup de travail, qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà, et merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup, Benoît. Si je peux juste ajouter une petite chose, moi je sais que ton intitulé d'émission s'appelle maintenant les circuits courts et ça a été annoncé comme ça. Mais en fait, si on parlait de circuits normaux, en fait, parce que c'est le circuit normal d'un produit agricole de terroir et de paysan, c'est qu'il soit en fait mangé localement. Et alors, sauf sur des choses, comme on l'a dit tout à l'heure, sauf sur des choses exceptionnelles. Mais donc, en fait, c'est un peu comme l'agriculture bio. En fait, on paye un label pour être en agriculture biologique, alors qu'en fait, ceux qui travaillent en agriculture dite, enfin, chimique, qui n'est pas dit, en fait, devraient payer un label pour une agriculture chimique ou conventionnelle, ou je sais pas. Et qu'en fait, l'agriculture bio devrait être considérée comme agriculture normale, quoi. Ouais. Et ensuite, sur la reprise en main par les citoyens, effectivement, donc, on peut consommer localement, soutenir nos paysans, etc. Donc ça, c'est qu'il y a plein de petites initiatives qui se créent à droite à gauche. Ça fait déjà pas mal d'années. Les AMAP, c'est quasiment 30 ans maintenant. Et donc on a plein de petites initiatives qui se créent. Et là, en fait, il est temps d'aller plus loin et que les citoyens s'engagent, non pas seulement dans leur manière de consommer, mais en fait dans leur manière d'agir. Je parlais de politique tout à l'heure au sens de la cité, quoi. De s'engager dans la cité. Il y a les municipales qui arrivent. Et en fait, d'aller dire, en fait, nous, on est d'accord de voter maintenant, mais en fait, on veut que vous, les politiques, vous engagiez avec les paysans, avec l'environnement, avec l'air qu'on respire, avec ce qu'on mange, avec l'eau qu'on boit. Et qu'en fait, on peut plus, quoi. On peut plus nier le lien, en fait, entre les maladies sanitaires, l'hygiène, enfin, voilà, la santé nationale, en fait, et la carotte qu'on mange, quoi. Il y a un lien qui est direct au niveau moléculaire. Et voilà, et donc je vous invite à écouter les prochaines émissions où il y aura peut-être des invités qui font partie du nouveau collectif Alimentation, Agriculture et Territoire 65.
Merci infiniment Aurélien, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine.
La semaine prochaine sera là Benoît Guillat. Et effectivement, on parlera donc, on continuera à parler des circuits courts. Moi, je vous propose tout simplement de partir maintenant du côté du Gers, retrouver Pauline Cazier et ses invités.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Une antenne régionale du Centre de prévention de l'épuisement des professionnels de la santé et autres secteurs. C'est un dispositif du CHU de Toulouse qui a ouvert des créneaux de consultation au centre hospitalier d'Auch depuis le 5 février. Je vous propose d'écouter le professeur Fabrice Hérin. C'est le chef de service des pathologies professionnelles et environnementales au Centre universitaire de Toulouse. Il est au micro de Pauline Cazier.
Donc le centre PEPS a été créé par le CHU de Toulouse en mai 2023 qui consistait à prendre en charge les professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social, public, privé, libéral et associatif qui présentaient un épuisement professionnel et qui étaient en difficulté pour exercer leur activité. Donc c'est une prise en charge qui a commencé avec des consultations et des ateliers thérapeutiques avec des prises en charge pluridisciplinaires et puis on est passé à un autre stade en septembre 2025 avec l'ouverture d'un hôpital de jour pour une prise en charge plus active des cas les plus graves et on a eu volonté d'ouvrir cette prise en charge aussi au territoire, hein, dans cette mission régionale du centre de pathologie professionnelle et donc là on a pu ouvrir donc à Auch qui est le premier établissement qui nous accueille en région donc pour le Gers et puis prochainement on ouvrira aussi à Rodez donc pour l'Aveyron. Le centre hospitalier de Auch, l'objectif est d'accueillir bien sûr tous les professionnels du secteur de la santé et médico-social du département au plus près de leur activité parce qu'on sait qu'il y a un frein majeur à la consultation, c'est la culpabilité et la honte, et donc venir au CHU c'est pas simple, déjà se déplacer au centre hospitalier c'est pas facile non plus, et donc le centre hospitalier de Auch nous a offert une capacité d'accueil avec des locaux discrets à l'entrée du centre hospitalier justement pour éviter ce regard qui pourrait être mal interprété des professionnels qui nous consultent. On est là tous les jeudis. Tous les jeudis, il y aura un médecin et un psychologue du travail qui vont assurer des premières consultations et des suivis, aussi bien sur le plan de vue médical que psychologique. Alors, c'est des professionnels de santé qui sont adressés soit par leur médecin du travail lorsqu'ils ont une activité salariée, soit par leur médecin traitant ou leur psychiatre parce qu'on est dans l'épuisement professionnel et donc la santé mentale. Dans de rares cas, on accueille aussi bien sûr des professionnels qui n'ont pas de médecin traitant. Ça existe aujourd'hui, on le sait bien, pas de médecin référent. Donc l'objectif n'est pas de les pénaliser. On le fait également. Mais ça reste la voie d'exception parce que le but n'est pas de chinter les professionnels qui ont l'habitude de prendre en charge nos professionnels de santé.
L'idée, c'est vraiment de cibler tous les professionnels de santé, même les internes.
Oui, il n'y a pas de dichotomie ni d'âge référent. On voit bien que aujourd'hui, l'épuisement professionnel touche tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son type d'activité. Et donc, on accueille tous les professionnels.
Vous avez déjà des premières demandes ?
Oui, on a déjà ouvert, hein, entre guillemets, officiellement en février. Il n'y a aucun mal, malheureusement, à compléter nos créneaux de consultation et on s'adaptera, bien entendu, à la demande.
Vous parliez, dans le cas des souffrances au travail, de conflits éthiques. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Oui. Aujourd'hui, on est persuadé que dans l'épuisement professionnel, il y a ce qu'on appelle le conflit de valeurs, hein, le conflit éthique, c'est-à-dire la perte du sens de travail. Nos plus jeunes patients qui présentent un épuisement professionnel nous décrivent très bien ce problème, c'est-à-dire une analyse différente du travail par rapport à ce que j'imaginais quand j'ai commencé mes études. Et en fait, l'exercice étant différent par rapport à l'idée que je m'en étais fait, me met en difficulté. Plus la charge de travail, plus les moyens que je puis accorder me peut faire concourir à présenter un épuisement professionnel.
Oui, la pénibilité au travail, c'est un secteur qui est particulièrement confronté à ces problématiques entre le travail de nuit, le contact avec la mort.
Oui, alors bien entendu, il y a plein de secteurs professionnels qui sont difficiles, voire pénibles, mais le secteur de la santé en fait partie, vous l'avez souligné, hein, le travail en 12 heures, le travail de nuit, week-end compris, et puis bien entendu le contact avec la souffrance, la mort, et une grande qualité des soignants, c'est la qualité d'empathie, mais c'est aussi malheureusement un facteur de faiblesse pour pouvoir développer ce genre de pathologie que peut être l'épuisement professionnel.
D'avoir ces locaux qui sont assez éloignés de l'hôpital en lui-même, c'était important pour vous ?
En tout cas, c'était important d'avoir des locaux au sein du centre hospitalier, parce que je trouve qu'il était important qu'il y ait une institution, une tutelle qui puisse s'intéresser à cette mission de référence du territoire. Mais c'était important surtout que ça ne soit pas à la vue des autres professionnels. Je crois que, je l'ai dit, il y a de la culpabilité et de la honte. Et donc, il fallait avoir un peu de distance par rapport au cœur du vie du centre hospitalier de Hoche. Et donc, on a des locaux à l'entrée du centre hospitalier qui sont agréables, qui ne sont pas en première ligne de la capacité d'accueil et qui permettent donc au mieux d'accueillir nos professionnels du territoire.
Pour les cas les plus graves, ils seront réorientés vers Toulouse, c'est ça ?
Oui, donc l'équipe qui consulte sur le centre hospitalier de Hoche est l'équipe toulousaine. Et donc pour les cas les plus graves, ils seront pris en charge sur le centre hospitalier de Toulouse avec des hospitalisations si nécessaire.
Voilà, à l'instant, c'était le professeur Fabrice Hérin, chef de service des pathologies professionnelles et environnementales au Centre universitaire de Toulouse. On écoute maintenant le docteur Willy Vaillant. Il est hématologue au Centre hospitalier d'Auche et il est initiateur du projet.
Moi, je dis toujours, avoir le métier de santé, c'est un sacerdoce. On s'occupe des patients et comme je dis, je suis toujours ravi, même sensible, lorsque le patient me dit « Mais docteur, est-ce que vous allez bien ?» Et c'est vrai que pour moi, c'est d'importance. Aujourd'hui, prendre conscience que les docteurs, les professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, qu'on soit en libéral, qu'on soit en salarié, il faut aussi qu'on s'occupe de nous. Il faut donc avoir cette antenne, c'est aussi prendre conscience qu'il faut un bien-être des professionnels de santé et être bien dans sa peau, comme je dis, c'est aussi assurer une qualité de soins aux patients. Donc pour moi, c'est vraiment une richesse d'avoir effectivement ce partenariat là-dessus, par les élus, par les acteurs de santé, par nos institutions, vraiment d'instaurer cette antenne chez nous. Voilà. Donc de proximité, vraiment c'est à titre honorable, je trouve que c'est vraiment important.
Voilà, vous venez d'entendre Willy Vaillant, hématologue, et il est au centre hospitalier d'Auche. Il était initiateur de ce projet, voilà, de cette antenne régionale du centre de prévention de l'épuisement des professionnels de la santé et autres secteurs. Un grand merci à Pauline Cazier pour ses interviews. C'est notre correspondante dans la Gers.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Thank you.
Vous avez peut-être reconnu le groupe Les Frangines avec Demain dès l'aube, repris le poème de Victor Hugo dont on parlera dans quelques minutes.
Présence à Pau 96.
12h30, on retrouve l'actualité régionale en compagnie d'Ambre Pagès de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour Ambre.
La cérémonie d'hommage au sergent-chef Florian Montorio, tué dans une attaque au Liban le 18 avril, aura lieu demain au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. La cérémonie débutera à 11h30 avec la présence de la ministre des Armées et des anciens combattants, Catherine Vautrin, ainsi que du général Pierre Chille, le chef d'état-major de l'armée de terre. Le village de Saint-Clair, dans lequel vivait le militaire avec sa famille, organisera un hommage personnel et familial le 8 mai à 15h. L'émotion reste vive dans le Tarn-et-Garonne, notamment à Valence d'Agen, village natal de Florian Montorio. L'Ariège, confronté à la désertification médicale à la fin du mois de mars, l'Ordre national des médecins a publié l'annuel Atlas de la démographie médicale. Cette étude recense les effectifs inscrits à l'Ordre des médecins dans les départements de France. Celle-ci confirme le ressenti des Ariégeois, l'offre médicale est limitée. Le nombre de médecins augmente mais ne répond pas à la demande. En effet, il a augmenté deux fois moins vite que le nombre d'habitants entre 2010 et 2026 dans le département. Un chantier Tisséo près de Toulouse. Depuis mi-avril, un chantier d'agrandissement du parking relais de Ribot à Balma a débuté. Sa capacité va tripler pour accueillir 122 places supplémentaires. Ce projet a pour objectif de répondre à l'importante fréquentation sur le tracé du Linéo 1. L'extension du parking intègre aussi d'autres aménagements, dont des box à vélo fermés, des places PMR et des places pour la recharge des véhicules électriques. Des engagements environnementaux sont par ailleurs tenus, avec la plantation de 45 arbres et des dispositifs de gestion des eaux pluviales, selon le syndicat mixte. À Lourdes, un nouvel hommage est rendu à Sainte Bernadette. La chasse de la Sainte, située à Nevers, a été reproduite pour être exposée à la place de l'ancienne bijouterie dont la vitrine donne sur le boulevard de la Grotte. Cette réplique en bois, sculptée pendant 2 ans par Robert Moignard, un sculpteur du Béarn, est une demande des descendants de Sainte Bernadette. Anne-Leport, arrière-arrière-petite-nièce de la Sainte, soit la 5e génération à la tête de la maison paternelle, explique que cette reproduction fidèle est la suite logique du musée. La maison paternelle est la dernière maison où elle a vécu à Lourdes avant de partir à Nevers. Les jardins partagés à la Clède, à Gourdon, dans le Lot, fêtent leur 15e saison. Soutenue par la municipalité, l'association voit le jour en 2010, lieu de vie et de partage dans la commune. Les bénévoles se sont réunis récemment pour préparer les buts de culture pour les plantations printanières. Véritable moteur local, l'association poursuit des engagements sociaux, éducatifs et environnementaux, notamment avec la permaculture. Cet espace collectif promeut l'esprit de solidarité et de communauté. La déception est grande pour les supporters du TFC. Les joueurs de la Ville Rose ont perdu la demi-finale de la Coupe de France face à l'équipe de Lens, hier soir au stade Bollaert. 4-1, un score difficile pour les Toulousains qui pensaient revivre leur victoire de 2023. Sur les réseaux sociaux, les supporters des Violets dénoncent un manque de partialité des commentateurs de France 2. Selon eux, les commentateurs de la chaîne étaient en faveur de l'équipe à domicile. La finale de la Coupe de France se déroulera le 22 mai au Stade de France. Elle opposera le RC Lens face au vainqueur du duel Strasbourg-Nice qui se joue ce soir.
Merci beaucoup Ambre Pagès de l'Institut catholique de Toulouse, ses étudiants qui nous accompagnent chaque jour en ce qui concerne l'information. Et l'information, il en sera question également à partir de 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Tout à l'heure, on écoutait un poème mis en musique par le groupe Les Frangines, un poème de Victor Hugo. Et bien aujourd'hui, d'un jour, un livre en auteur, et bien c'est la deuxième émission consacrée à un petit musée, un petit trésor qui se trouve à Juillan, entre Tarbes et Lourdes.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Un jour, un livre, un auteur. Et bonjour Diego Arabal.
Et bonjour Philippe, que faites-vous là?
Eh bien écoutez, j'allais vous dire bienvenue dans les studios de Radio Présence, comme chaque semaine. Hein,
comme chaque
de début septembre au fin juin de l'année suivante. Nous
fin
sommes
août.
Ici.
Non, mais...
Voilà, donnant juillet, août, voilà, on prend quand même quelques petites vacances, bien méritées, puisque c'est une émission hebdomadaire que nous faisons. La semaine passée, parlons-en, nous étions allés faire un tour du côté du musée Victor Hugo de l'espace. Victor Hugo à Juillan, avec Jean-Claude Rieu de Batte, le dynamique président de l'association des Amix de Victor H, pour Victor Hugo. Et il est venu nous retrouver cette semaine, mais cette fois-ci pour nous parler toujours de littérature, bien entendu, mais... C'est un homme, Jean-Claude Rieu de Batte, qui a bien des cordes à son arc, dont celle de la littérature, car il écrit poèmes, théâtre, romans. Comment vous en êtes arrivé à l'écriture, Jean-Claude Rieu de Batte? Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Je vous ai pas dit bonjour.
Bonjour, Philippe.
Voilà,
bonjour.
On démarre bille en tête.
J'ai commencé, en fait, par le journalisme. J'ai commencé à contribuer à une revue qui s'appelait Gascogne, publiée à Nogaro. Pendant une quinzaine d'années.
Donc Nogaro dans le Gers.
Oui. Et puis un journal de Mont-de-Marsan qui s'appelait La Tuile, qui était un bimensuel pendant 17 ans, je crois. Et puis, parallèlement...
C'est à titre professionnel que vous faisiez ça?
Non, comme ça, un titre littérateur.
Un titre littérateur, ouais. D'accord.
Et puis, j'ai continué sans doute un peu sur la lancée, et je me suis mis à une écriture un peu plus diversifiée. Et j'ai commencé par produire un ouvrage sur le rugby juillanais, de 1921, depuis les origines jusqu'à 1960. Ça s'appelait « Aller les Rouges », et j'ai raconté donc toutes ces saisons-là, match par match presque, en allant voir les anciens, en récupérant beaucoup de vieux souvenirs, de vieilles photos, etc. Ça a été le premier ouvrage un peu conséquent que j'ai produit. Après, j'en ai fait un second.
Parce on le trouve toujours, cet ouvrage?
Non, c'est épuisé.
Il est épuisé?
Non,
d'accord.
C'est épuisé. Ensuite, j'ai fait, parce que j'ai enseigné pendant 29 ans dans le Lot-et-Garonne, donc je m'étais très attaché à la partie centrale du Lot-et-Garonne, et j'ai fait une étude sur une bastide médiévale qui s'appelle Damazan. C'est au milieu, à peu près à mi-chemin entre Agen et Marmande.
C'est Damazan Mémoire en images, c'est ça que
oui,
vous avez
voilà,
fait.
Oui, voilà, c'est ça.
Je l'ai retrouvé, c'est une collection que
oui.
L'on retrouve. Alors j'ai vu par
c'est
contre...
C'est toute une série qu'ils ont faite.
Sur bien des communes en fait,
oui.
Où ils font la commune et le canton. C'est
voilà.
Particulièrement intéressant, j'ai trouvé, pour ne pas oublier la mémoire. Et alors, j'ai l'impression que ce qui est un peu le fil rouge... à la fois dans ce qu'on avait vu la semaine dernière et de ce que vous faites aujourd'hui, c'est le cheminement de la mémoire. Vous êtes là pour entretenir la mémoire et être un passeur de mémoire.
Oui,
je me trompe en
croire,
disant ça ou pas?
Il faut croire que oui, un peu, je dois être un peu nostalgique, je ne sais pas. Mais bon, ça m'intéressait de voir un petit peu ce qu'il y avait eu avant, longtemps avant, puisque Damazan a été fondé en 1256, si j'ai bonne mémoire. Et il y avait un monsieur dans le village qui possédait un nombre incalculable de documents sur le passé du village. Donc je lui avais dit qu'il faudrait en faire quelque chose, et puis lui, il était mal à l'aise pour rédiger, alors je lui ai dit, vous classifiez un petit peu les documents par thème, et puis moi je vous ferai le compte-rendu écrit, donc c'est ce qu'on a fait à tous les deux.
C'est un peu comme dans le poème « L'aveugle et le paralytique ».
Oui.
Hein, vous vous souvenez à la fin de ce qu'il dit,
oui.
L'aveugle dit au paralytique je serai vos jambes,
voilà,
et le paralytique dit moi
ça,
je serai
oui.
Vos yeux.
Oui, hein? oui. Sauf que le malheureux maintenant il est dans un EHPAD et il a vieilli lui, bien sûr. Mais enfin voilà, on a été content de faire ça, il est épuisé aussi parce que les gens ont été très intéressés de voir leurs ancêtres, parfois leurs parents, leurs grands-parents sur les photos de classe, etc.
Il y a un vrai... J'ai l'impression, à travers ce que vous dites, qu'il y a vraiment une vraie filière pour ce type d'ouvrage.
Oui.
Pour que les gens, effectivement, qui soient d'un canton, d'une commune, puissent un peu retrouver leurs origines. Et puis, surtout, comme vous disiez, ces personnes-là qui possédaient tout un tas de documents, qui vont se perdre.
Hein. Oui,
parce qu'en général, ben, après, ça arrive très souvent, malheureusement, quand il y a un héritage, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de ces photos? Bon, allez, au lieu de les mettre aux archives départementales, on balance tout à la benne.
C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ignorent que tous ces documents-là peuvent être versés aux archives départementales.
Tout à fait.
Moi, je connais un peu des gens qui travaillent aux archives départementales et de façon très fréquente, ils se rendent dans des familles pour récupérer des fonds archivistiques de la famille pour pouvoir les classer. Mmh.
C'est assez surprenant d'ailleurs parce que même lorsqu'on fait les marchés aux puces, J'aime bien t'entendre aller au marché Opus comme ça pour voir ce que les gens vont vendre. Je suis pas là, mais j'ai envie de voir ce que les gens ont. Et je vois des gens par moment qui ont de la correspondance, par moment des correspondances de guerre. Première, Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Algérie, guerre d'Indochine. Puis qui viennent vendre ça. Alors que c'est un patrimoine familial. Bon, je préfère qu'ils le vendent et puis que, voilà, que ça soit conservé.
Il vaut mieux le vendre plutôt que le jeter.
Exactement. Ouais.
Tout le monde n'a pas le respect des anciens. Ouais.
Et ça, je trouve que c'est ça, quand j'ai préparé cette émission pour aujourd'hui, que j'ai vu ce livre d'Amazon, Mémoire en images, et que j'ai regardé, en fait, tous les autres ouvrages. Je me suis dit, en fait, ils font un travail de conservation de la mémoire par rapport à chacune des communes et à chacun des cantons, enfin, qui est assez fabuleux, quoi.
Alors, c'est édité par un Anglais, Alan Sutton, qui est basé dans la Loire, je crois. Mmh. Et ça, le problème, c'était qu'il veut faire le passé de communes de 5000 habitants. Et nous, on n'y était pas. On était à 1200. On était loin du compte. Alors il nous a dit, bon, vous pouvez faire quand même à condition d'englober les villages du canton.
Enfin, pour arriver à 5000. Pour arriver à 5000.
Il est arrivé à peu près à 5000, donc il a accepté de l'éditer.
Pourquoi ce seuil de 5000 ?
Question de rentabilité, je présume.
Je suppose,
Pour arriver à avoir suffisamment...
Pour être sûr de pouvoir en vendre assez.
Ce qui se comprend aussi.
C'est vrai qu'on oublie souvent de dire, effectivement, qu'une maison d'édition, c'est aussi un bilan et un compte de résultats. En fin d'année, ben, il faut arriver effectivement à ne pas être
Il s'est vendu aussi, il est épuisé, donc c'est bon signe. Quoi. Une fois, il y a un vélodrome d'Amazon. Il y a un vélodrome.
D'accord.
Village de 1200 habitants, il y a un vélodrome bâti en 1921 et où on tournait tous les grands champions des années 50. La copie est venue trois fois. Anquetil, Charlie Gold, Bahamontes,
Darrigade, qui était un coureur cycliste de l'Irlande.
Maintenant, bon, il n'y a plus grand-chose côté cycliste, un petit peu des amateurs, mais une fois je regardais, il y avait un match au milieu. Au milieu, il y a un terrain de sport, un rugby-foot. Et puis il y avait des dames un peu plus loin. L'une dit à l'autre, vous avez vu le livre qui vient de sortir sur Amazon ? Oui, on me l'a envoyé pour ma fête à Béziers, là-bas. Oh là là, j'en ai pleuré.
Et oui, forcément. Oui.
J'en ai pleuré de voir tous ces visages que j'ai connus. Et après, je suis allé la trouver et lui dire que c'était moi. Mais oui, les gens ont apprécié, oui.
Je pense qu'il y a un vrai... C'est pour ça que je voulais vous recevoir aujourd'hui, effectivement, pour ces écrits que vous avez faits, notamment sur ce travail de la mémoire. Alors, vous faites aussi des poèmes, des pièces de théâtre.
Oui, j'en ai eu.
Et vous avez joué même les pièces de théâtre que vous avez écrites, que vous mettez en scène.
Pas plus tard qu'en octobre dernier, j'avais écrit une pièce qui s'appelait « Du rififi à la fontaine ».
Ouais.
Ça a l'air d'être une pièce policière, mais c'était pas du tout.
C'est un vaudeville ? Plutôt un vaudeville ?
Non, ça se passait au Moyen-Âge, dans le bas Moyen-Âge, à Juillan, en 1452, un an avant la bataille de Castillon, en 1453, qui a marqué...
Castillon, la bataille.
Qui a marqué la fin de l'occupation.
Donc en Gironde.
Voilà. Et j'ai situé l'action à Juillan, et c'était un conflit entre le bailli du coin, juillanais, donc.
Alors le bailli, rappelez ce que c'est, un bailli.
C'était une espèce de juge, moitié maire de l'époque, quoi.
D'accord.
Et puis le gouverneur anglais qui était là aussi, qui partageait le pouvoir, et puis bon, c'était une histoire de femmes, évidemment.
C'est marrant, hein, les femmes se retrouvent souvent au centre des conflits.
Chercher la femme, comme
oui. Oui.
Donc voilà, c'était en cinq actes et en vers.
Et en vers,
ce qui ne se voit plus du tout.
En vers, en alexandrin, en alexandrin, en plus, donc 12 pieds.
Je ne sais pas écrire autrement du théâtre, donc c'était en 5 actes et en vers, et avec les costumes d'époque et tout.
Donc. Avec les mystiches au milieu, donc 6 pieds. Ah oui, donc là, il y a une contrainte littéraire
Non, mais c'est plaisant à écrire, oui. Alors c'était héroïque-comique, quoi, bon, sur le mode un peu, voilà, drôlatique, mais les gens doivent apprécier, oui, je pense quand même, oui.
Et au niveau des poèmes, poésie ?
Oui, et puis j'ai édité, donc c'était l'an dernier, une plaquette poétique qui s'appelait « Miscellanée poétique ».
C'est toujours aux éditions Le Solitaire ou une autre maison d'édition ?
Oui, c'était au Solitaire,
donc maison d'édition, je rappelle, qui est basée à Tarbes.
Oui, à Tarbes, oui.
Rue Kronstadt, c'est ça.
Rue Kronstadt, oui. Monsieur Marc Meyraud est le patron. Et donc, j'ai rassemblé dans cet ouvrage 30 poèmes, je crois qu'il y en avait, regroupés un petit peu par thème.
Tous écrits de votre main.
Oui.
Alors en vers.
Oui, bien sûr.
Donc Alexandrin.
Oui.
Parce que vous savez écrire quoi ça.
Il y avait des exasyllabes, des octosyllabes.
Ah d'accord, ok. Donc là vous avez fait une... Vous êtes sorti un peu du cadre,
oui,
d'accord.
Oui, enfin bon, il ne faut pas quand même... Donc c'était assez varié sur le thème et sur l'esprit. Et je les ai aussi épuisés. J'en ai gardé deux pour moi-même, mais bon, voilà.
Bon, et vous avez un projet littéraire, hein, à venir,
oui, ou pas ? Et alors je viens de finir cette semaine à la rédaction de mon dernier, qui est un ouvrage de recherche.
Et qui s'appelle ?
Qui s'intitule, accrochez-vous bien, Victor Hugo et la tauromachie.
Ah ! Expliquez-nous ça. Victor Hugo était un passionné de
un sujet que personne n'a approché, ouais. parce que ces grands biographes, genre André Monroy, Juin, Escolier, enfin Alain Decaux et son gros pavé de 600 pages n'en ont jamais parlé parce qu'ils étaient loin des réalités tauromachiques à Paris là-bas. Mais moi qui suis un peu au milieu là, j'ai été frappé par le nombre de fois où le terme de taureau revenait sous sa plume. Et j'ai pensé qu'il y avait quand même quelque chose à creuser là. Et effectivement, en relisant son œuvre, une grande partie de son œuvre, j'ai trouvé plein de références au monde de la tauromachie. J'en ai corrigé quelques-unes parce qu'il s'était un peu trompé, mais voilà.
Ça veut dire que c'est un peu un travail universitaire, quelque part, que vous avez fait ?
Il y a de ça, oui.
Parce qu'on a un HDR ici, hein, avec nous, hein, c'est-à-dire... Diego Arrabal, hein, qui est un thésard et qui est habilité à diriger des recherches.
Je suis à la retraite là.
Au siècle dernier.
C'était en 1800 et quelques. 1850,
c'est aussi.
Monsieur exagère.
Non, c'est parce qu'il est contemporain de Napoléon III, qui était plus jeune que lui. Voilà,
oui, Napoléon III était plus jeune que moi.
Plus jeune que moi, là. Et quand est-ce que vous allez le sortir au solitaire aussi ?
Alors oui, j'ai fini la rédaction. Moi j'écris, je ne tape pas, je ne sais pas taper, donc j'ai écrit au stylo et puis je confie ça à une secrétaire qui va prendre le temps de l'enregistrer et puis je vais porter la clé USB à...
Combien de pages alors vous...
Il y a 130 pages, moins après il y aura les illustrations en plus. D'accord. Donc ça fera 150 pages je pense, oui.
D'accord. Et donc le point de vue que vous défendez à l'intérieur, c'est que Victor Hugo était un...
Je ne dis pas. Bon, le titre c'est Victor Hugo tauromache, point d'interrogation.
D'accord.
Parce que bon, je ne dis pas qu'il était aficionado à los toros. Simplement, je pense qu'il a été grandement influencé par son frère aîné Abel, qui a écrit deux nouvelles sur la tauromachie espagnole très tôt. Et puis après, il a eu un désagrément dans les arènes d'Orthès. Quand il est passé en 43 avant de venir ici, à Lourdes et aux Pyrénées centrales, on lui a refusé l'entrée aux arènes d'Orthès. Parce que l'adjoint au maire tenait pour les classiques et il n'était pas pour les romantiques.
Ah d'accord, ok.
Et il lui a dit, jamais de la vie il n'y aura une place pour vous dans les amphithéâtres d'Orthès. Et il ne l'a pas laissé rentrer.
D'accord.
Alors il est parti la tête basse. Sauf que, près de 20 ans après, quand il a rédigé Les Misérables à Guernesey, là, il s'en est souvenu et il lui a réglé son compte dans Les Misérables.
Il s'appelait Thénardier ?
Non, c'est Bamatabois, il s'appelait. Ah. Et il y a tout un chapitre qui s'appelle Le désœuvrement de Monsieur Bamatabois. Et il a écrit un chapitre au vitriol sur. J'ai enquêté un peu là-dessus et j'ai retrouvé une partie de la famille, des descendants qui m'ont confirmé la chose.
D'accord.
Que c'était l'arrière-arrière-grand-père, m'a dit le monsieur, qui est mort maintenant, qui avait 92 ans quand je l'ai contacté. Il m'a dit, oui, j'ai toujours entendu cette histoire dans ma famille. Ah bon, donc vous confirmez ? Oui, je confirme, oui. Donc voilà, donc ça me paraissait intéressant. Et puis après, pour finir, il y a eu donc, la partie tauromachie espagnole, la partie tauromachie landaise, et puis il y a, aux dernières nouvelles, la partie tauromachie provençale, puisque la course camarguaise a aussi à voir avec la famille Hugo, Jean Hugo, qui était l'arrière-arrière-petit-fils, qui était dessinateur, décorateur, etc., a vécu à Lunel, à côté de Lunel, dans l'Hérault.
Dans l'Hérault, c'est ça.
Ça doit être limite
Hérault-Gare. Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Et donc, il a fréquenté le monde de Taurin Camarguet, et puis sa fille, qui s'appelle Marie Hugo aussi, décoratrice, peintre, etc., artiste, aussi a fréquenté le milieu. Donc, il y a une belle continuité depuis 1811 jusqu'à 2026. Voilà. Donc, il y a beaucoup à dire là-dessus.
Bon, eh bien, vous reviendrez nous voir. Vous savez quand est-ce qu'il va sortir ? Vous avez une idée ou...
Bah après, je ne suis plus maître des horloges, là, mais vraisemblablement à la fin de l'été, je pense.
Bon,
voilà.
2026, hein,
oui,
d'accord,
cette année,
fin de l'été
2020.
Oui, écoutez, oui, ben, on vous réinvitera en début septembre pour nous présenter cet ouvrage. Oui. Et puis, ben, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir Marc Miro qui soit donc avec vous en tant qu'éditeur pour savoir pourquoi, qui nous donne un peu le point de vue de l'éditeur, pourquoi il a choisi effectivement ce livre, sachant que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Victor Hugo est venu. Dans les Hautes-Pyrénées, donc 1843,
il est passé à Lourdes, évidemment, il est passé à Juillan.
Il est passé à Juillan.
Ah, il est passé à Juillan.
On sait les lieux où il est passé.
Oui, bien sûr, mais bon, c'était ce qu'on appelle, nous, la route de Lourdes, Tarbes-Lourdes, mais à l'époque, en 1843, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il y avait des champs, des prés, des bois, mais il n'y avait rien. Donc il ne s'est pas arrêté, il n'y avait pas de raison qu'il s'arrête, quoi. Mais enfin, il est passé sur le territoire de Juillan, et Lourdes aussi, évidemment, à l'aller et retour.
Bon, mais c'est un bel hommage que vous lui avez rendu. Hein, la semaine dernière, on en parlait avec ce musée, cet espace, espace-musée, on va dire, espace-musée Victor Hugo. Voilà, pour s'attirer les foudres des personnes. L'association, les Amix de Victor H. Et puis, cette particularité que vous avez, vous écrivez donc des pièces de théâtre, des poèmes en alexandrin, et puis ce livre, Victor Hugo, donc, et la tauromachie. Et vous allez sortir.
Et je précise aussi que l'an dernier, j'ai publié un ouvrage sur la vigne et le vignoble juillanais.
Ah, je ne savais pas qu'il y avait une vignoble.
Puisque je suis encore un peu vigneron aussi. Et donc, je tenais à évoquer tout le passé de la viticulture locale.
Bon, il est épuisé celui-là aussi,
oui.
Ou pas?
Ah, mais non.
Donc, vous avez que vous n'avez. Voilà, d'accord.
Je suis victime de mon succès.
Vous êtes victime de votre succès. Bon, ben écoutez.
C'est bien.
Bon, eh bien, écoutez, on vous retrouvera de toute manière en septembre pour ce livre entre Victor Hugo et la tauromachie, donc écrit, on le rappelle, hein, par une personne en Bigorre, mais qui va intéresser bien au-delà de la Bigorre pour celles et ceux qui s'intéresse, on ne peut pas d'ailleurs ne pas s'intéresser à Victor Hugo, hein, que ça soit à la fois l'écrivain, le personnage politique, le personnage engagé, donc notamment contre la peine de mort, avec donc le dernier jour d'un condamné, hein, qu'il avait écrit, et quand dans les années 50, Albert Camus et Arthur Koestler donc vont militer contre la peine de mort en Europe, ils se référeront à Victor Hugo et le ministre donc de la justice
Badinter
qui est mort il y a pas très longtemps dans son discours en 1981 fait référence à Victor Hugo et au dernier jour donc d'un condamné à mort. Je voulais pas terminer cette émission sans en parler parce que il est rentré donc au Panthéon et je rappelle juste que Victor Hugo quand il a été enterré il avait demandé à ce que son cercueil soit mis sur le char des pauvres.
Oui, exact. Oui,
voilà.
Oui, oui. Et il avait donné une somme d'argent aussi pour les pauvres.
Oui, voilà, tout à fait. Et c'était effectivement pour rappeler ça. Et comme ça, ça va permettre effectivement aux personnes de se replonger un peu dans toute l'œuvre de Victor Hugo. Vous parliez des contemplations tout à l'heure, de ses magnifiques poèmes. Hein, et puis notamment, moi, ce poème que je préfère, vous le citez tout à l'heure par rapport à sa fille Léopoldine, qui est morte tragiquement, hein, donc noyée, avec Julien Drouet, si je me rappelle bien.
Avec Charles Vaquery.
Charles Vaquery, pardon, son mari. Et d'ailleurs, on peut voir les tombes.
Oui, oui,
encore,
bien sûr, à Villequier.
Voilà, à Villequier.
Et pour l'anecdote, elle s'est noyée le jour même et à l'heure même où Juliette Drouet et Victor visitaient la cathédrale d'Auch.
D'accord, ça je l'ignorais par contre.
Ils visitaient la Sainte-Marie, la cathédrale d'Auch, et c'était cet après-midi-là. Après-midi funeste.
D'accord.
Il ne l'a su que plus tard, évidemment.
Et il ne l'a su que plus tard, effectivement. Eh bien... On vous remercie vraiment, Jean-Claude Rieudebatte, d'être venu partager ces moments avec nous. On vous retrouvera pour la sortie donc de cet ouvrage Victor Hugo, donc et Tauromache, hein, ça sera le titre, donc qui sera publié aux éditions Le Solitaire. Maison d'édition basée à Tarbes, hein, on le rappelle, hein, maison d'édition Occitanie qui fait vraiment de très très beaux livres. Voilà ce que l'on pouvait dire, Diego Arrabal.
Et oui, et on va devoir se quitter, je pense.
Et oui, c'est comme ça, mais on se retrouve.
Toutes les bonnes choses ont une fin.
Oui,
on va se retrouver.
Oui.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Voilà, et on pense à remercier toujours ceux qui sont dans l'ombre. Hein, on oublie souvent.
Ah, ils ont allumé la lumière, là.
Ah, ils ont allumé la lumière, là. C'est pour ça, ils nous font signe à chaque fois. Donc, un studio qui nous permet effectivement d'être là et de faire cette émission modeste, on le dit souvent, mais géniale, qui s'appelle un jour
modestement génial ou génialement modeste, comme on veut.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été, y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années, et toujours en été.
Yeah.
Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Les chrétiens doivent prendre en main le destin de la Guinée équatoriale. L'appel du pape Léon XIV devant des